n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la file, aujourd'hui, vous partez d'une actualité qui est l'évacuation des camps de migrants ces derniers jours à Paris.
Depuis juin 2015, il y a eu 36 opérations de démantèlement. Les trois dernières dans le nord-est de la capitale ont eu lieu hier et la semaine dernière. Le mercredi 30 mai, c'est le campement millénaire qui avait été évacué.
Le quartier a d'abord été bouclé par les policiers, puis l'évacuation a commencé au petit matin. Plus de 350 migrants soudanais ou érythréens pour la plupart. Ils le savaient, le démantèlement était imminent. Les associations l'avaient même réclamé. Alors tout s'est passé dans le calme.
Nous sommes là pour accompagner cette opération qui, encore une fois, n'est pas une opération policière, c'est une opération sanitaire, c'est une opération humanitaire, c'est une opération d'accès aux droits.
Jaurès, Calais, mais aussi Lesbos, Lampedusa, quel que soit le territoire, ces opérations relancent une question, celle de l'hospitalité, question à laquelle il ne s'agit pas de répondre oui ou non, mais comment ? Comment accueillir au mieux pour un temps ou plus et pourquoi le faut-il ? Ces questions, comme j'avais eu l'occasion d'en parler en décembre, les philosophes ne les évitent pas du tout. Tribunes, interventions, livres, ils sont nombreux depuis 2015 à avoir pris la parole sur la crise des réfugiés. Habermas, Zizek, le regretté Étienne Tassin, Étienne Balibar, Marielle Massé ou Alain Renaud que vous avez évoqué tout à l'heure. À ces noms, il faut en ajouter trois, Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère, à qui l'on doit la fin de l'hospitalité, et tout récemment Vaincre nos peurs et tendre la main, et puis Mireille Delmas-Marty, qui avec les écrivains Patrick Chamoiseau et Michel Lebris, a rédigé l'appel de Saint-Malo, lancé le dimanche 20 mai, lors du festival Étonnant Voyageurs, suite à une première tribune dans Le Monde. Alors j'ai voulu mentionner ces trois noms, car leurs textes prennent la forme de manifestes pour une société hospitalière et à l'échelle mondiale pour une gouvernance du droit des migrations. Et tous, pour le plaider, prennent appui sur l'histoire de la philosophie.
Jean-Paul Sartre a résumé cet entretien avec le chef de l'État.
Nous avons demandé un pont aérien permettant de ramener le nombre de réfugiés le plus grand qu'on pourrait, une terre d'accueil en France, un lieu où ces prisonniers pourraient être libres.
En 1979, alors que le sort des boat people vietnamiens secouait la France, deux philosophes, pourtant ennemis, avaient pris la parole de concert auprès du président Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Paul Sartre, que l'on vient d'entendre, et puis ce philosophe.
Le président n'a pas donné une réponse formelle dans un sens ou dans un autre aux demandes du groupe. Il est vrai qu'il n'a formellement promis qu'une seule chose, c'est que tous les réfugiés qui seraient dans ce bateau battant le drapeau français seraient acceptés en France. Et là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute, non, d'autant plus que c'est un principe fondamental.
Raymond Aron, Sartre, Aron, l'Alliance a de quoi surprendre, mais l'appel avait été entendu et 120 000 personnes avaient été accueillies. Mais bien avant Aron et Sartre, et comme le rappelle Mireille Delmas-Marty, Kant, déjà dans son projet de paix perpétuelle, déduisait un principe d'hospitalité universelle de l'espace de la Terre qui, je cite, « oblige les êtres humains à se supporter parce que la dispersion à l'infini est impossible et qu'originairement, l'un n'a pas plus de droit que l'autre à une contrée ». Et Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, de leur côté, le rappelle aussi, l'hospitalité a été une notion clé de la philosophie politique, d'Homère jusqu'à Derrida.
Il y a toujours entre l'hospitalité et l'improvisation, qui est notre situation à l'instant, une affinité essentielle. L'acte d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité, l'autre arrive. Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue, s'il y en a, est toujours, justement, impossible. J'entends par là, non pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est ce qu'il faut faire, il faut faire l'impossible.
Derrida relisant Kant et Lévinas, Aron s'alliant à Sartre, mais aussi Ricoeur et le partage du chez-soi, Arendt et la migration comme expérience de la perte, la question de l'hospitalité est essentielle pour penser la politique comme idée et comme constitution concrète collective. Comment en est-on venu alors à la rendre impossible plutôt qu'à faire l'impossible, pour reprendre les termes de Derrida ? Comment en est-on venu à une question fermée et à une fermeture en général de l'hospitalité ? Eh bien, ce qui est frappant, c'est que l'hôte est tout à la fois celui qui a accueil et celui qui est accueilli, et que, comme le montrent les philosophes, l'hospitalité, dès lors qu'elle disparaît, est autant une fermeture à l'autre et à l'extérieur qu'une fermeture sur soi et surtout une aliénation à soi.
Merci Géraldine. Est-ce que vous nous recommandez la lecture de certains livres sur ce thème ?
Eh bien, le texte, le manifeste de Guillaume Leblanc, « Vaincre nos peurs et tendre la main », qui est paru aux éditions Flammarion, et puis aussi « La fin de l'hospitalité », que Guillaume Leblanc a coécrit avec Fabienne Brugère, qui paraît en champ Flammarion.
Merci, c'est noté. Ces lectures ainsi que votre chronique sont à retrouver en ligne sur le site du Journal de la Philo.